J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Au milieu du public assis sur les gradins de part et d'autre du plateau, six personnages en costume complet, penchés sur le corps d'un autre, tachés de sang et étalés sur le sol. Le corps mort au centre de ce spectacle vivant, c'est celui de Jules César. Autour de lui, les sénateurs qui l'ont assassiné pour contrer son ambition et préserver la République du risque de tyrannie. Entre ombre et lumière, le directeur du Théâtre de l'Orient, Rodolphe Dana, met en scène la mécanique du complot, la mécanique des cœurs, avec la troupe de la Comédie française au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Il est avec nous en compagnie de Clotilde Bézère qui incarne Cassius. Jules César de William Shakespeare est à l'affiche jusqu'au 3 novembre et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors disons-le tout de suite, Rodolphe Dana, votre mise en scène est très sobre. Hein. Elle vise vraiment à mettre en avant le texte, à nous faire goûter tous les interstices entre les mots et toute la profondeur. On va avoir en détail dans un instant. Grande sobriété aussi par la scénographie. Là aussi, on va y revenir. Sobriété, effectivement, mais aussi beaucoup de surprises. Et avant même que la pièce ne commence, les spectateurs qui ont eu un peu de curiosité et l'envie de se plonger dans la distribution à travers le petit livret qu'on leur distribue à l'entrée de la salle ont de quoi être étonnés parce qu'on retrouve 5 acteurs et 5 actrices dans cette distribution, 5 hommes et 5 femmes. Donc, et la surprise, c'est que les actrices jouent des personnages masculins et non des moindres. Jules César, Cassius, Marc-Antoine, des guerriers qu'on a la facilité peut-être d'imaginer plutôt extrêmement virils et qui sont donc incarnés là par des voix et par des corps féminins. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est en 2019 et j'ai assez vite compris en relisant la pièce que les enjeux politiques qui parcouraient cette pièce-là, la peur de la tyrannie, la peur du totalitarisme, des enjeux politiques, des ambitions, des frustrations, voilà, tout ce qui pouvait traverser ces hommes-là sur le papier pouvait être aussi aujourd'hui incarné et vécu par des femmes. Pour moi, les enjeux qui sont ceux de cette pièce-là ne sont pas sexués et ils peuvent tout à fait habiter le corps d'un homme, le corps d'une femme, et pour moi il n'y avait pas de distinction à faire à cet endroit-là et apporter aussi une touche de modernité à un texte classique, une manière aussi de voyager dans le temps et d'entendre une langue du 16e siècle et la voir portée par des gens du 21e. Pour moi ça me paraissait assez évident.
Oui, c'est pas forcément faire mentir Shakespeare parce que de son temps tous les personnages, y compris féminins, étaient joué par des hommes.
C'est ça. Là, c'est aussi un petit pied de nez où maintenant on peut aussi inverser les choses et que c'est avant tout un théâtre d'acteurs pour les acteurs. Alors voilà, acteurs, actrices, mais voilà, pour moi c'était l'idée que les deux choses étaient possibles.
Jouer un homme ou jouer une femme, Clotilde Bézère, c'est jouer, tout simplement. On peut dire ça comme ça?
Oui, là en l'occurrence, c'est jouer Cassius. Et donc le challenge, il est là. Il est pas dans une histoire de genre. Il est dans une histoire de incarner un être humain, incarner une pensée, incarner une philosophie, incarner une amitié, incarner ce que induit le texte de Shakespeare. Et c'est vrai que pour une femme, c'est super parce que très souvent, comme il n'y avait pas de femmes qui jouaient à l'époque, les rôles de femmes peuvent être assez réduits dans les pièces, notamment dans Jules César, il y a très peu de rôles de femmes, et ça donne des partitions qui sont magnifiques.
Ça veut dire que ce sont des personnages qui sont d'abord des personnages politiques avant d'être des hommes ou des femmes?
Oui, je pense, en tout cas politiques et philosophiques, et je pense que parce que dans cette pièce c'est aussi des débats d'idées, des combats d'idées, et c'est voilà, maintenant à notre époque les femmes sont autant dans la vie politique et dans les idées que les hommes.
Voilà, donc c'est pas seulement, on l'aura bien compris, parce que c'est à la mode de mettre un petit peu les femmes sur le devant de la scène aujourd'hui. Rodolphe Dana, ça va beaucoup plus loin que ça.
J'espère.
Cela dit, vous les logez pas tous à la même enseigne quand même, vos personnages, parce que si les conspirateurs qui soient joués aussi bien par les hommes que par les femmes sont tous en costume, souvent un peu rayés, alors il y a un petit côté un peu banquier, hein,
un peu italien,
voilà, banquier, mafioso, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, non. Pour certains, ça s'éloigne pas trop non plus. César, lui, il est tout en blanc. avec une tunique qui se rapproche de la toge, mais mais pas trop. Mmh. Justement, c'est intéressant, ça, le costume de César, parce que je me suis dit, c'est très étonnant. Il sort vraiment du lot par rapport aux autres costumes. Comment vous l'avez imaginé? Parce qu'on est à la fois dans le très contemporain, dans le très passe-partout, dans le très élégant, et en même temps, dans quelque chose qui résonne un peu ancien.
C'est très compliqué les costumes en général, et c'est encore plus compliqué quand on est en bifrontal, c'est-à-dire que quand les spectateurs sont très proches des acteurs, il faut à la fois être signifiant, mais être assez discret. J'ai toujours considéré que voilà, il fallait qu'on puisse à un moment donné, en étant pris par l'histoire et par les enjeux et par ce que vivent les acteurs et les actrices, que la question du costume soit pas une question secondaire, mais en tout cas qu'on y prête moins attention. Il fallait des signes. César a plusieurs costumes. Il fallait évidemment qu'il se démarque des autres.
Voilà, puisque... donc César blanc contre les noirs. Il y a un petit côté jeu d'échecs, là, même si César est plutôt isolé, quand même, dans le blanc.
Oui, mais c'était pas le but, en tout cas, de faire les bons contre les méchants, puisque...
Ah non,
on voit bien que c'est plus compliqué que ça, et que les enjeux de chacun des sénateurs ne sont pas les mêmes. Il y en a qui agissent par jalousie, d'autres par frustration, d'autres parce qu'ils n'ont pas obtenu un poste à la guerre précédente, qui briguait. Voilà, tous les enjeux sont vraiment différents. Et César, voilà, se distingue par le costume, les costumes, notamment celui qu'elle met le jour où elle va au Sénat, parce qu'elle s'apprête à recevoir la couronne, et que voilà, c'est ce fameux jour où elle va être assassinée. Mais voilà,
mais il fallait distinguer César des autres, parce que c'est plus qu'un primus inter pares, quoi. C'est réellement quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui occupe le centre de l'attention.
Oui.
Et qui envisage peut-être, c'est toute la question, peut-être.
Exactement.
D'en faire davantage, d'en vouloir davantage. Et donc de menacer les autres.
C'est ce qui m'a tout de suite, moi, plu. C'est le fameux, effectivement, que vous avez souligné. Ce peut-être. Je crois que c'est un des mots qui m'a convaincu de monter cette pièce. Qui fait référence au monologue de Brutus quand il est seul et qui réfléchit à la possibilité d'assassiner César sur un peut-être. Donc voilà, ça parle aussi de ça. Comment une démocratie romaine, même si elle n'a pas les allures de notre démocratie d'aujourd'hui, elle était déjà assez autoritaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on a peur que cette démocratie-là verse dans le totalitarisme, dans le despotisme? Et comment on prend une décision quand on est un être humain? Parce qu'on a parlé des enjeux politiques de ces hommes et de ces femmes, sénateurs, sénatrices, mais il y a aussi une dimension affective. C'est ça aussi qui est génial dans l'écriture de Shakespeare, c'est-à-dire que non seulement c'est une décision compliquée à prendre, mais en plus... elle est d'autant plus compliquée qu'il y a des enjeux affectifs qui relient certains de ces personnages, et notamment Brutus avec César.
Donc Brutus se demande effectivement si, peut-être, on reprend le mot, César ne va pas transformer la République en monarchie, donc en pouvoir personnel, d'une certaine façon. Et ça, pour Cassius, votre personnage, Clotilde Bézère, c'est absolument inacceptable. Et peut-être que la solution passerait justement par Brutus.
Je crois qu'on applaudit de nouveaux honneurs faits à César.
Comme un colosse, il enjambe ses tunnels vers l'étroit, et nous, hommes chétifs, nous rampons sous ses jambes énormes, cherchant avidement de tous côtés, et ne trouvant pour nous-mêmes que des tombeaux sans honneur. Les hommes peuvent parfois décider de leur destin. Si nous ne sommes que des esclaves, Brutus, la faute est en nous, non dans les astres. Brutus, César, qu'y a-t-il dans ce César? Pourquoi ce nom résonnerait-il plus fort que le tien? Écris-les tous les deux, le tien est aussi beau. Prononce-les, le tien est aussi agréable à la bouche. Pèse-les, ils sont d'un poids égal. Charge-le de combattre le mal, et Brutus deviendra César. Au nom de tous les dieux, de quelle viande c'est de nourrir notre César pour être devenu si grand? Siècle, honte sur toi! Rome, tu as perdu le meilleur de ton sang. Quel est, depuis le grand déluge, le siècle qui n'ait été glorifié que par un seul homme? Quand a-t-on pu dire, en parlant de Rome, N'y a-t-il qu'un seul homme entre ces vastes murs? Est-ce donc Rome, la grande cité? Est-ce Rome encore s'il n'y a que Rome qu'un seul Romain? Nous savons par nos pères, toi et moi, qu'il fut jadis un Brutus, qui n'eut jamais laissé Rome dominée par un démon aussi bien que par un roi.
Que tu m'aimes, Cassius, je n'en doute pas. Ce que tu attends de moi, je le devine. Ce que je pense de César et de cette époque, je te le dirai plus tard. Mais pour le moment, je voudrais que tu n'insistes pas davantage. En toute amitié, ce que tu as dit, je vais l'étudier. Ce que tu as à dire, je l'écouterai. Avec patience.
Je trouverai l'occasion de m'entretenir avec toi plus gravement.
Ouais, et on sent tout de suite dans la voix de Nazim Boudjenah qui incarne Brutus l'hésitation, la fébrilité, et en contraste, c'est vraiment très très clair, là, rien qu'à entendre le son de votre voix, Clotilde Bézère, la détermination, l'assurance, la rage aussi de votre personnage Cassius. Que craint exactement Cassius dans cette montée en puissance de César?
Il faut savoir que à l'époque, à ce moment-là précis historique, c'est que César s'était nommé dictateur à vie. Donc déjà, ça les inquiétait beaucoup. Et il va peut-être se proclamer roi. Cette chose-là les a beaucoup inquiétés. Et effectivement, on sait qu'il y a eu cette espèce de mise en scène où il a fait semblant de se faire couronner, parce que le peuple était contre la royauté. Le peuple romain n'aimait pas le fait.
Il avait de mauvais souvenirs.
Oui, il avait de mauvais souvenirs. Donc il essaie de jouer avec ça. On sentait que c'était une période où il testait l'opinion du peuple, parce que c'est vrai que Cassius était plus du côté de la République, du parti. Il y avait deux partis, le parti des aristocrates républicains et puis le parti de César, qui était plus le parti du peuple. Donc c'est deux partis très antagonistes, mais bon, ça naviguait un peu, et César tâtait le terrain. On sentait que alors ça faisait très peur à Cassius.
Voilà, mais Cassius, il fait plus que tâter le terrain, là, parce que donc il essaie de convaincre Brutus d'entrer dans la conjuration. Est-ce qu'on peut dire que Cassius, Clotilde Bézère, c'est une sorte de mauvais génie de Brutus? Est-ce que c'est un manipulateur, ce personnage de Cassius?
Je pense que Shakespeare a très bien décrit le caractère de Cassius dans les mots de César. César parle de Cassius en disant que c'est quelqu'un qui connaît bien le cœur des hommes. C'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui sait utiliser la notion qu'il a, cette espèce d'attention qu'il a sur les autres à son profit. Et c'est vrai que du coup, c'est quelqu'un qui va pouvoir utiliser, savoir manipuler les êtres humains autour de lui pour arriver à faire cette conjuration.
Mais justement, cette conjuration, il l'amène pour vous par ambition personnelle, par volonté de préserver Rome du risque justement de dictature, ou c'est une forme de responsabilité politique, ou c'est vraiment pour lui qu'il agit?
C'est ça qui est beau dans Shakespeare, c'est qu'en fait, c'est la somme de toutes ces raisons. Et c'est vrai que souvent, on a une idée de Cassius comme vraiment l'être jaloux, l'être colérique et jaloux, qui est jaloux de César, parce que c'est vrai qu'ils étaient
Il projette beaucoup, le personnage, et vous aussi.
C'est vrai. Mais ce qui est formidable dans Shakespeare, c'est que c'est un mélange de tout ça, parce qu'on voit bien que ça leur fait mal, la tyrannie leur fait mal. Ils ont une espèce de terreur et de hantise de cette tyrannie. Et donc, on voit très bien qu'il est un peu obsédé par le suicide, Cassius. Et donc, il passe son temps à dire qu'il veut se tuer plutôt que d'être sous la tyrannie. Donc il y a quelque chose chez lui qui est très puriste aussi, du point de vue politique.
Alors Rodolphe Dana, il y a deux parties dans la pièce. C'est évidemment l'assassinat de César, donc il y a évidemment l'avant et l'après. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et moi j'ai vraiment eu l'impression en la voyant que dans la première partie de la pièce, il y avait un premier duo, hein, Cassius et Brutus, et dans la deuxième partie de la pièce, un autre duo, Octave et Marc-Antoine. Vous avez construit ces quatre personnages-là un petit peu en miroir, parce que Cassius et Brutus, pour commencer par eux, ils sont indissociables.
Ils sont indissociables. Cette pièce a aussi la particularité, d'un point de vue dramaturgique, de commencer, on est tout de suite dans l'action. La présence d'un coup d'État est tout de suite dit dans les premières scènes, ce qui fait que on a affaire à une dramaturgie assez particulière, c'est-à-dire que la tension qui habite tous ces acteurs-là, tous ces sénateurs, tous ces conjurés, est très présente dès le début. On voit qu'elle n'a qu'une visée, qu'un but, et elle est pratiquement écrite en temps réel, c'est l'assassinat de César. Une fois qu'ils arrivent à l'assassiner au Sénat, on a l'impression que dans l'écriture, il y a quelque chose, comme si César était une force qui cristallisait autour de lui tous ses sénateurs et ses sénatrices, et qu'une fois lui assassiné, c'est comme si la dramaturgie, elle s'éparpillait en deux camps, et d'un côté effectivement la naissance du jeune Octave et l'ambition et la révélation de l'ambition d'un désir de vengeance de Marc-Antoine. Tout en effectivement en ayant en parallèle la poursuite de l'histoire, que deviennent Cassius et Brutus quand ils ont abattu leur ennemi, comment se gère aussi le leadership quand on fomente un coup d'État, mais qu'on n'a pas, je crois que dans l'histoire c'est le seul coup d'État où les protagonistes n'avaient pas prévu la suite, en fait.
Oui, parce qu'ils ont l'air complètement dépassés, hein, c'est
tout à fait.
César est mort, Rome s'écroule, quoi. C'est, voilà. c'est un peu ça.
Rome s'écroule, le discours de Marc-Antoine aussi change le cours de l'histoire. Enfin, l'arrivée du personnage de Marc-Antoine aussi met un frein à la dramaturgie qui allait droit pour l'instant, etc., avec des doutes évidemment de part et d'autre des conjurés, mais en tout cas on allait droit, et là tout à coup la mort de César fait qu'on éclate. On éclate le récit en deux camps, celui des futurs nouveaux leaders et puis ceux de l'ancienne génération qui...
Et donc notamment donc Cassius et Brutus qui sont vraiment à l'origine, enfin en tout cas surtout Cassius en l'occurrence dans la pièce, de cet assassinat de César, parce qu'on a entendu là, Brutus il est quand même très très hésitant, il tergiverse beaucoup, où est-ce qu'il doit tuer César avec qui il a quand même un lien très fort. Là aussi oui. c'est un choix entre l'intime et la liberté, Rodolphe Dana. Entre l'intime et la politique, entre...
Oui, ça c'est sûr. Il fait exprès, je pense, Shakespeare, de rendre les choses plus complexes. C'est pas, et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, me touche chez ces deux personnages-là, c'est qu'ils ont une dimension humaine, philosophique, métaphysique et aussi affective dans cette prise de décision. Ce sont pas des hommes politiques, froids, pragmatiques, comme on peut avoir l'impression avec Marc-Antoine et surtout avec Octave. Tu voulais rajouter quelque chose?
Clotilde de Bézère.
Non,
pardon.
Alors, on va écouter un autre extrait de la pièce qui met en scène, justement, Brutus, donc Nazim Boudjena, et Portia, son épouse, jouée par Claire de la Rue du Camp.
Brutus!
Portia, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu debout à cette heure?
Et toi? Pourquoi as-tu quitté notre lit? Hier soir, à tard, tu t'es levé brusquement et tu t'es mis à marcher. Quand je t'ai demandé ce que tu avais, tu m'as regardé durement. Tu as frappé du pied avec impatience. Et j'ai eu beau insister, tu n'as pas daigné me répondre. Puis d'un geste de colère, tu m'as fait signe de te laisser. Je t'ai obéi, Brutus. Mais cette anxiété ne te laisse ni manger, ni parler, ni dormir. Si elle avait autant d'effet sur ton visage qu'elle en a sur ton caractère, je ne te reconnaîtrais pas, Brutus. Mon cher Brutus, je t'en supplie. Dis-moi la cause de ton chagrin.
Je me sens pas bien.
Non. Dis-moi la vérité, Brutus, la vérité. Tu n'es pas malade. C'est dans ton âme que le mal qui te ronge parle. Parle, je t'en conjure par tes serments d'amour. Par le grand serment qui nous a unis en un seul corps. De me révéler à moi et ton autre toi-même, ce qui te pèse ainsi. Parle. Quels sont les hommes qui sont venus cette nuit te trouver? Ils étaient 7 ou 8 et cachaient leur visage aux ténèbres même.
Gentil.
Dis-moi, Brutus, dans le lien qui nous unit, existe-t-il une restriction qui m'interdise de connaître tes secrets? Ne suis-je un autre toi-même que sous certaines conditions? Dans une certaine mesure, pour te tenir compagnie à table, ou bien pour causer parfois avec toi au bord du lit. Je suis la fille de Cato! Je suis la femme de Brutus! N'existais-je que dans les faubourgs de ton bon plaisir, Brutus? Si c'est là tout, je ne suis pas ta femme. femme. Je suis ta putain.
Tu es ma vraie femme. Et je t'aime. Et je t'aime autant que les gouttes vermeilles qui affluent à mon triste cœur.
Alors parle.
Alors là, on a un peu l'impression que c'est une scène assez périphérique et pourtant elle est quand même très importante dans la pièce parce que elle rend vraiment le personnage de Brutus, Rodolphe Dana, très attachant puisqu'on se rend compte qu'il est faible et tout. Et c'est vrai qu'on a un peu l'image à travers la culture populaire d'un Brutus qui serait une forme de enfin c'est un peu la figure du traître quoi. Hein, c'est un peu le Judas du Nouveau Testament ou pour reprendre une référence shakespearienne le Iago dans Othello. C'est beaucoup plus complexe que ça là si on en croit ce Shakespeare là.
Oui, surtout dans cet acte-là, parce que il est harcelé par les conspirateurs qui viennent le chercher chez lui pour le convaincre une fois pour toutes par l'entremise de Cassius d'accepter ce coup d'État, cet assassinat. Il est aussi perturbé par sa femme. Donc c'est une nuit où il dit qu'il a pas fermé l'œil. Et
donc il est tourmenté. Quoi. Il se demande ce qu'il faut faire. Et c'est un être profondément. Honnête, oui, quand même, parce que même après, hein, il avoue, il assume, quoi. Il essaie. Il a du mal à le faire, mais il le fait.
Il le fait. On pourrait dire que c'est un homme politique qui est honnête, si ça a encore un peu de sens aujourd'hui. Qui doute. Qui est influençable, c'est Cassius qui le dit à un moment donné. Donc c'est aussi ça qui fait que au théâtre et ces acteurs-là et ce personnage-là fait que on a une complexité de palette de à jouer qui est intéressante et qu'il faut qu'on puisse se dire tour à tour il est faible, non, il a besoin d'un être fort pour l'encourager à prendre des décisions. On a besoin de lui pour prendre le leadership parce qu'il est respecté par tous. Donc Cassius a besoin de lui pour faire valider sa proposition. Mais en même temps, il aime sa femme se doute de choses, donc il veut pas perdre sa femme non plus. Donc c'est ça, la complexité des personnages que Shakespeare nous livre donne à l'acteur la possibilité d'avoir une grande palette de jeux et de montrer que tour à tour on est des êtres faibles, forts, aimants, vengeurs,
humains, tout simplement.
Humains, on essaye, enfin voilà. ils essayent.
Voilà. Et César, c'est Martin Chevalier. Alors est-ce que César viendra ou pas au Sénat au moment des Ides de mars? Lui aussi il tergiverse, hein, d'ailleurs Rodolphe Dana César. Alors c'est très étonnant parce que on se dit que c'est un personnage très très fort et puis il y a aussi les augures, les présages, les rêves. Sa femme a fait un rêve
où elle le voyait
voilà dans une situation pas forcément très très favorable. On lui a dit oula, méfie-toi des Ides de mars, hein, c'est le devin qui lui a dit ça. Donc il se dit bon bah voilà, il va, et pourtant on arrive à le faire basculer quoi, et c'est un personnage qui s'appelle Décius, le sénateur, qui est joué par Jérôme Pouli, qui fait partie du complot, qui va finir par le convaincre d'y aller. Et pour ça, il va utiliser finalement la faiblesse humaine de César, c'est-à-dire son ego, son orgueil.
Son ambition, le mot ambition revient beaucoup dans la pièce pour traduire ce potentiel potentat qui et en fait c'est aussi là-dessus que se jouent des renversements politiques et des destinées et l'histoire qui serait écrite à partir du ça aussi c'est le génie de Shakespeare, le rêve de sa femme qu'il le voit assassiné, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, alors il y a toute l'ambiguïté aussi pour Martine Chevalier qui joue le personnage de César. Est-ce qu'il est au courant ou pas qu'un coup d'État se... Moi, je pense intimement qu'il ne peut pas ne pas être au courant vu la stature, vu la grandeur, vu l'ambition qu'il est possiblement la victime d'un coup d'État. Je pense qu'il parle beaucoup de la peur, etc. Mais effectivement, il se laisse griser, j'allais dire, par le fait qu'il est César et que là, il dit à un moment donné, je crois, la peur, le danger, c'est fort bien que César est plus dangereux que lui. Donc il se laisse aussi griser par cette toute puissance, parce qu'il faut savoir que César, il a toutes les guerres qu'il a menées en Gaule, etc. Il y a plus d'une fois où il aurait dû mourir 100 fois pendant ces guerres-là. À chaque fois, il y réchappait de justesse. Donc il y a aussi jusqu'où on va tenter le diable pour se prouver qu'on est presque immortel.
Silence, comptons les heures.
L'horloge a sonné 3 coups.
C'est par nous.
Attendez. On ne sait pas encore si César voudra ou non sortir aujourd'hui. Depuis peu, il est devenu superstitieux. Il se peut que ces éclatants prodiges, les terreurs inhabituelles de cette nuit, il avide ses devins, le dissuade d'aller au Capitole.
Ne craignez pas cela. Si telle est sa résolution, je puis la retourner. Elle aime à s'entendre dire que les licornes se laissent duper par les arbres, les miroirs par les ours, les éléphants par des trappes, les lions par des filets et les hommes par des flatteries. Mais quand je lui dis qu'il déteste les flatteurs, il répond oui. Tout flatté. Laissez-moi faire. Je guiderai son humeur dans la bonne direction et je le conduirai au Capitole.
Tous, nous irons le chercher chez lui.
À 8h.
Au plus tard.
Légarus est hostile à César qui lui reproche d'avoir dit du bien de Pompée. Je m'étonne qu'aucun de vous n'ait pensé à lui.
Va le chercher, Métellus. Il m'est dévoué. Non, sans raison. Envoyez-moi, je m'en occupe.
Go, avance sur nous. À tout à l'heure, Brutus. Amis, dispersons-nous. N'oubliez pas vos paroles et agissez en vrai romain.
Mes amis, soyons affables et sereins. Que nos visages ne trahissent en rien nos intentions. Jouons notre rôle comme des acteurs.
Et là, sur le plateau, comme des acteurs, justement, comme des acteurs, effectivement, on y arrive, Rodolphe Dana, parce que là, il y a tous les membres du complot hein, dans cette scène. Donc, il y a Cinna, Decius, Metellus, Casca, Cassius et Brutus, évidemment. Ils sont très nombreux. Comment les faire exister individuellement à l'intérieur du groupe? Parce qu'on a en permanence ce jeu, justement, à la fois de l'individuel et du collectif.
Ouais, alors ça c'est une bonne question. On a eu deux scènes notamment celle-là où les conspirateurs viennent chez Brutus, ils ont très peu de dialogue et ça c'est presque du travail d'orfèvre, c'est-à-dire que comme beaucoup de choses se passent entre Cassius et Brutus, on sent bien que c'est eux deux sont les leaders de cette aventure-là avec peut-être un petit supplément pour Brutus. Il faut qu'il soit extrêmement attentif à ce qui s'échange entre Cassius et Brutus et qu'il puisse marquer aussi, puisqu'il y a pas mal à chaque fois qu'il y a, et ça jusqu'à l'assassinat de César, même après, il y a Cassius et Brutus sont souvent en désaccord. Ils doivent marquer, et c'est ce qui est difficile, a fortiori dans un bifrontal, de manière subtile, le fait que leurs deux leaders sont en train de se quereller, et si les deux leaders sont en train de se quereller, c'est que on va peut-être pas dans la bonne direction, donc ça crée du trouble.
Donc le bifrontal, il faut peut-être expliquer, c'est effectivement donc le plateau qui est au milieu hein, de la salle avec des gradins, donc de part et d'autre du rectangle que constitue la scène pour que chacun visualise bien. C'est une vraie contrainte de jeu, ça, Clotilde Bézère, le bifrontal.
Oui, que je découvre parce que en fait c'est la première fois que je joue vraiment en bifrontal.
Pourtant au Vieux Colombier, on a l'habitude.
Oui, hein, maintenant, ça se fait souvent. Mais moi, j'ai jamais été dans un spectacle en bifrontal.
Et alors, c'est qu'est-ce vrai que ça change?
Ça donne quelque part une certaine liberté dans le sens où on ne se sent pas attiré que d'un côté. Il y a une chose de face. Le corps, je trouve, est très libre, mais on a tendance à plus bouger, à plus être dispersé. Alors je ne sais pas pour les spectateurs ce que ça donne comme impression. Comme acteur, moi j'ai l'impression de beaucoup tourner, beaucoup bouger, et d'avoir une espèce de liberté dans le corps qui est peut-être plus grande.
Ah bon, c'est intéressant ouais, parce que ouais, vous parlez de liberté alors que moi je pensais plutôt que c'était une contrainte. Quoi, pour pouvoir projeter la voix, pour pouvoir être,
alors, c'est une contrainte
être audible,
pour la voix,
être bien
peut-être
comprise, oui, mais même au niveau du corps, puisqu'il faut se tourner ou pas dans un sens ou dans l'autre,
oui,
non?
Oui, dans quelques fois c'est contraignant, mais souvent ça donne une certaine liberté. Moi, c'est un mélange des deux. Hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai qu'on a l'impression tout d'un coup qu'on est examiné de tous les côtés, donc il n'y a pas de triche. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve.
Ouais, et en plus, l'avantage aussi du bifrontal, c'est que le public est encore plus complice des comédiens, mais en l'occurrence, il est un peu complice du complot aussi, quoi. Rodolphe Dana, quoi. Il fait partie du spectacle, quoi. On a un peu l'impression parfois d'être des sénateurs aussi dans l'enceinte du Sénat, ouais, parfois d'être la foule à laquelle s'adressent les conspirateurs ou le personnage de Marc-Antoine un peu plus loin. Le public devient aussi, par la force des choses et parfois à son corps défendant, acteur.
Il devient acteur. Moi, c'était aussi quelque chose que j'aime. Dans mon expérience de mise en scène, je crois que j'ai fait deux fois. C'est la deuxième fois que je fais du bifrontal. Effectivement, ça implique une grande honnêteté par rapport au jeu d'acteur. On peut pas tricher, on peut pas trop fabriquer des choses. Il faut être, se laisser traverser par les moments, par le moment présent, par la construction de l'histoire au temps présent, être avec ses partenaires et d'avoir sous ses yeux à très peu de distance le public qui doit aussi se sentir ça doit être jouissif pour lui de se sentir presque avec les acteurs. Il faudrait effectivement, je pense que ça fonctionne à partir du moment où les spectateurs, en tout cas ceux au moins du premier rang, se sentent dans l'histoire, presque dans la tête des sénateurs, de voir en direct, en temps réel, comment se fabrique un coup d'État. Enfin voilà, il faut qu'ils se sentent aussi, il faut qu'ils se sentent déstabilisés par le renversement politique qu'amène le discours de Marc-Antoine aux funérailles de César. Il faut qu'ils doutent, il faut qu'il ait envie d'aimer Brutus, tour à tour Cassius, et puis aussi Marc-Antoine, et puis César.
Ah, il faut qu'il choisisse son camp, mais alternativement.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut, quand on est pris en temps réel par l'histoire, c'est compliqué. Peut-être c'est après coup, après le spectacle, où on peut un peu digérer tout ce qu'on a vécu et de se dire, tiens, ce Marc-Antoine, il était machin. Finalement, Brutus était l'homme le plus droit de la pièce, ce que dit Marc-Antoine à la fin. Enfin, c'est bien qu'on en soit aussi comme les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, qu'on, des fois, on se laisse séduire, alors qu'on devrait pas. Des fois, on éprouve un peu de colère et de haine, alors que c'est peut-être exagéré. Enfin voilà, c'est tout. Ça parle de tout ça aussi.
Et pour que le spectateur se trouve effectivement partie prenante du spectacle, il y a aussi énormément de jeux avec la lumière, avec l'ombre également. Et puis il y a les entrées, les sorties des comédiens. Alors là, je voudrais qu'on en dise un tout petit mot quand même, Rodolphe Dana, parce que on a un peu l'impression à de multiples reprises, et j'évoquais en ouvrant cette émission la scène de l'assassinat, on a un peu l'impression d'une sorte de chorégraphie, de quelque chose de très très millimétré, de très précis dans la façon dont les personnages se positionnent et par rapport au public et les uns par rapport aux autres. C'est millimétré?
En tout cas, les entrées et les sorties,
c'est minuté, alors, aussi.
Non, c'est quelque chose qui est, je sais pas pourquoi, quand t'es metteur en scène, tu as des obsessions comme ça. J'ai un peu une obsession du rythme, moi, de la musique. C'est pour ça que quand j'entends, je peux tout à fait savoir, quand j'entends les extraits que vous passez, si on est dans quelque chose de sensible ou si c'est un peu, un peu récité ou si c'est vraiment vécu. Et les entrées et les sorties sont aussi importantes pour préserver le rythme de la pièce, qui, encore une fois, je le répète, au moins les trois premiers actes est dans un rythme quasiment en temps réel. Donc, il faut pas, je pense, laisser la possibilité aux spectateurs de commencer à réfléchir ou à se dire, ah, tiens, cette scène-là, après ça, César, ah, tiens, son costume. Et il faut qu'il soit pris dans l'histoire. Et pour qu'il soit pris dans l'histoire, il faut que chacun des acteurs, même s'ils n'ont pas de scène forcément ensemble, soit responsable du rythme global de la pièce.
Mais il y a le rythme, mais il y a aussi l'esthétique, quoi. Il y a un petit côté pictural, quoi. On est dans des tableaux, quoi. En particulier dans la scène de l'assassinat. La façon dont justement tous les personnages membres du complot se retrouvent autour du corps de César.
Oui, après l'assassinat, c'était aussi une scène assez qu'on a mis du temps à trouver parce que j'avais l'intuition que ça devait pas être quelque chose qui devait se faire de manière rapide ou naturaliste ou réaliste.
Le temps suspend son vol à ce moment-là.
Voilà. C'était un peu l'objectif, et de travailler sur cette notion, comme je disais tout à l'heure, d'un César éternel, d'un César immortel, et que les premiers coups qu'il reçoit ne le perturbent pas plus que ça, et que les sénateurs qui assènent ces coups-là puissent se dire, mais en fait, on n'arrivera pas à le tuer puisque il ne réagit pas au coup qu'on lui assène, et peut-être que cet homme-là est réellement éternel et immortel, une espèce de.
Alors, il n'y a pas de couteau, hein, sur le plateau. Il y a le poing, donc il faut un peu imaginer le couteau que vous avez dans la main. Clotilde Bessard, comment est-ce que vous avez vécu, si j'ose dire, le coup de couteau de Cassius? Parce que chaque conspirateur a le sien, quoi. À quoi ressemble le coup de couteau de Cassius?
Coup de couteau de Cassius, il est terrible, parce que c'est vraiment. Je pense que Cassius, au moment où il frappe, la culpabilité arrive. Et c'est ça qui va le détruire tout au long de la suite de la pièce. Mais ça, cette culpabilité, elle n'arrive qu'à ce moment-là. Parce qu'avant, il est sûr de lui, sûr de son fait. Et cette espèce de mise à mort, effectivement, c'est traité un petit peu comme une sorte de sacrifice, de cérémonie. Il y a une sorte de cérémonie, de communion dans cette cérémonie. Ils veulent absolument que ça soit... ils veulent pas que ça soit un assassinat, ils veulent que ça soit un sacrifice. Donc c'est pour ça qu'elle est allée chercher Brutus, c'est pour ça que voilà, toute la symbolique entre en compte.
Et c'est en important. Particulier la symbolique du sang. Et là, ça rejoint la question de la question du sacrifice. Quand on se lave dans le sang, c'est une forme de purification, finalement, oui, à travers cet assassinat, quoi. Et c'est Brutus qui en est un petit peu le maître d'œuvre, Rodolphe Tanner.
Oui, puisque Brutus n'a de cesse de dire à Cassius, Cassius qui voit aussi dans ses projets en disant qu'est-ce qu'on va faire de Marc-Antoine, il faut aussi tuer Marc-Antoine, etc. Et là, Brutus reprend le leadership en disant non, on va d'abord tuer César, et une fois qu'on aura tué César, Marc-Antoine ne sera pas dangereux, sans quoi il se trompe aussi profondément. Certes. Mais encore une fois, par honnêteté, ça parle aussi de ça, je crois, les hommes politiques dans cette pièce, et surtout celui de le personnage de Brutus, malheureusement, le réalisme, enfin, la rigueur et l'honnêteté politique ne payent pas.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Clotilde Bézère et Rodolphe Dana pour Jules César de William Shakespeare, actuellement à Paris avec la troupe de la Comédie Française au Théâtre du Vieux Colombier. C'est jusqu'au 3 novembre. Nouvel extrait avec au centre du plateau à ce moment-là, Georgias Kaliets dans le rôle de Marc-Antoine qui s'adresse au peuple devant le corps de César.
Liberté. Liberté. La tyrannie.
Hier encore, un mot de César aurait arrêté l'univers. Le voilà, gisant, et il n'est pas un misérable qui daigne lui faire honneur. Oh, mes maîtres, si j'étais disposé à exciter vos cœurs et vos esprits à la révolte et à la fureur, je ferais tort à Brutus et tort à Cassius, qui sont, vous le savez, des hommes honorables. Je ne veux pas leur faire tort. J'aimerais mieux faire tort à ce mort, à vous-même et à moi, que de faire tort à des hommes si honorables. Pourtant, voici un parchemin avec le sceau de César, je l'ai trouvé dans son bureau. Ce sont ses dernières volontés. Si seulement le peuple entendait ce testament... Pardon, j'ai pas l'intention de le lire. Si seulement le peuple entendait ce testament, tous se précipiteraient pour baiser les pieds de César mort, pour tremper leurs mouchoirs dans son sang sacré, pour implorer même en souvenir de lui un seul de ses cheveux qu'ils transmettraient comme un précieux legs à leur postérité. Mais je ne dois pas le lire. Il ne convient pas de savoir combien César vous aimait. Vous n'êtes pas de bois ni de pierre, vous êtes des hommes. Et pour peu que vous entendiez ce testament, vous deviendriez fou. Il n'est pas bon que vous sachiez que vous êtes ses héritiers. Car si vous le saviez, qu'arriverait-il ? Là, je crains d'être allé trop loin en vous parlant. Là, je crains de faire tort aux hommes honorables dans les poignards. Bon, c'est là ! Ouais, je le crains. Hein, vous voulez que je le dise ? Vous voulez ? Si vous avez des larmes, préparez-vous à les répandre.
Voilà, grande partition de Georgias Kaliets qui a deux monologues vraiment assez importants et imposants, aussi bien d'ailleurs en volume qu'en projection qu'en variété de jeux, Rodolphe Dana. Il y a un mot qui revient très souvent dans ce qu'elle dit, notamment dans cet extrait, mais pas seulement, c'est le mot honorable. Vous avez travaillé particulièrement avec elle sur la façon dont elle le dit, ce mot-ci.
Oui, alors c'est un des grands monologues de la littérature classique et particulièrement de Shakespeare. Je crois qu'on appelle ça un anaphore. Le fait de répéter cet adjectif-là sans arrêt est une manière aussi toute son habileté politique et dans le fait qu'on lui a permis de parler aux funérailles de César et qu'elle utilise le fait que ce sont des hommes honorables pour dire des choses assez mauvaises à leur endroit, en fait. Donc elle se sert du langage pour retourner l'opinion politique tout en disant du bien des hommes et des femmes qui lui ont permis de prendre la parole. Donc c'est un coup de génie d'un point de vue littéraire, et après voilà, c'est comment l'actrice tous les soirs rend compte de cette manière qu'elle a d'utiliser honorable une première fois et puis de s'en resservir une deuxième fois puis une troisième fois, qui lui permet, comme un garant, comme une protection, qui lui permet de dire des horreurs sur ces gens honorables, mais comme elle dit qu'ils sont honorables, elle peut en dire du mal.
Alors là, c'est intéressant parce que c'est peut-être le seul personnage pour moi qui est vraiment un peu lyrique, hein, le personnage de Georgias Caliat, le personnage de Marc-Antoine, alors que tous les autres, y compris le vôtre d'ailleurs, Clotilde Bézard, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. On est dans quelque chose qui, c'est vrai que votre personnage est comment dirais-je, il projette vraiment énormément, c'est un personnage très très fort, mais on n'est pas du tout dans une dimension emphatique, on n'est pas... Est-ce qu'on est encore dans du Shakespeare, d'une certaine façon? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que, Rodolphe Dana, vous avez travaillé la langue de Shakespeare comme vous avez pu la travailler dans Le Marchand de Venise ou dans Hamlet, par exemple, Clotilde Bézard? La tonalité n'est pas la même.
Ah bon? Mais peut-être aussi c'est le fait de jouer un homme. Enfin, je sais pas. Il y a une fête. Je sais qu'en tout cas, personnellement, je parle pour moi, hein, le fait de jouer un homme, les projections, les barrières ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas de limites. Je sais pas. J'ai l'impression que il y a quelque chose comme ça de franc, de droit. On peut entrer dedans, on peut entrer dans la langue directement, sans avoir à jouer. Des subtilités féminines, je ne sais pas comment dire.
Mais une langue peut-être encore plus contemporaine qu'habituellement chez Shakespeare. On n'a pas peut-être ce souffle classique qu'on peut attendre d'un Shakespeare. Rodolphe Dana.
Mais il reste des images quand même. Les images sont très
oui, parce que c'est une langue
lyrique,
très poétique.
La langue est très poétique.
La langue est très poétique. Rodolphe Dana, sur la langue.
Sur la langue, j'ai pas de. Je travaille avec des acteurs qui sont différents, avec des actrices qui sont différentes. Voilà, chaque chacun et chacune a une personnalité, une manière d'entrer dans la langue différente. J'essaie de trouver une harmonie, j'essaie de trouver une cohérence dans cette dissonance nécessaire des personnalités. Mais pour moi, la langue, il faut qu'elle soit, et surtout celle-là, on est dans une pièce politique, on n'est pas dans une pièce avec des enjeux, même s'il y a quelques enjeux affectifs entre les personnages. Mais c'est effectivement une langue... On en fait ce qu'on en veut de la langue. Pour moi, elle est âpre, elle est directe, et on l'entend quand elle est pas, j'allais dire, un peu boursouflée ou avec des scories ou avec effectivement une sorte de lyrisme ou d'acteur qui s'écouterait jouer.
Je pense que c'est très dû aux traductions qu'on a très souvent du 19e, qui sont très ampoulées. Et quand on revient à l'anglais, parce que là, on est quand même souvent revenu à l'anglais. Et on est allé directement voir l'anglais, et que l'anglais est beaucoup plus direct, et notamment dans les disputes, les choses comme ça, c'est très simple, très direct et très concret. Très concret.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir, Rodolphe Dana et Clotilde Bézard. Jules César de Shakespeare au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 3 novembre. Et bravo à nos gagnants du jeu de VMDN de lundi dernier, Louise Faye et Djibril Ba de Dakar au Sénégal et Jean-Pascal Cabessa de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ils recevront le premier roman d'un amoureux, d'un passionné, d'un faiseur de théâtre, Alexis Michalik, Loin, paru aux éditions Albin Michel. Mama, Clara Isée dans VMDN sur RFI. Bonjour Alain Picot.
Bonjour Jean-François, bonjour Clotilde Bézère et bonjour Rodolphe Dana.
Alors si vous avez voulu nous présenter Clara Isée en commençant par Mama, ce n'est pas tout à fait un hasard, évidemment.
Mais cette Mama, c'est sa maman qui était la psychanalyste Anne Dufour-Mantel, morte noyée en allant sauver des eaux deux enfants au large d'une plage de Ramatuel. Un disque donc marqué entre autres par cette tragédie, Clara Isée.
Quand chacun vit quelque chose de difficile, parfois de cette difficulté-là, on est obligé de tracer un langage à soi, qui est un langage de deuil ou qui est un langage d'amour, quoi, pour traverser quelque chose qui est trop difficile sans ce langage inventé. Et je crois que du coup, cette EP, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai presque cousu, quoi, tissé fil après fil, pour essayer justement de trouver les lumières que je ne voyais plus.
Alors l'album s'appelle Le Monde s'est dédoublé, et c'est un mini-album où apparaissent aussi Alain de nombreux instruments.
Et pas qu'occidentaux, tels que la derbouka, le bendir, le daf ou la clarinette très klezmer à un moment. Qui a eu cette idée, Clara?
À la base, c'est moi qui ai choisi vraiment tous les instrumentistes qui travaillent avec moi. Je les ai choisis à chaque fois, c'est des histoires à la fois d'amitié et d'admiration très forte. Je crois que à chaque fois je les ai choisis parce que j'ai beaucoup d'admiration pour eux dans ce qu'ils font. Et la clarinette, c'est vrai que Cédi, il a une façon de jouer qui est assez extraordinaire, qui est assez sauvage et qui je trouve amène, par exemple pour ce solo de clarinette, je lui ai demandé d'improviser en lui donnant certaines directives, en lui disant que notamment que je voulais vraiment que ce soit un mouvement du début jusqu'à la fin, un mouvement ascendant comme une espèce de grande vague, et que en même temps je voulais que ce soit sur certaines gammes orientales, enfin voilà, je lui ai donné des directives et après c'est lui qui a mis son cœur dedans et c'est ce que je voulais et c'est magnifique, enfin, j'adore, moi.
Le monde s'est dédoublé, Clara Isaac qui s'exprime en plusieurs langues.
En français, en espagnol et en anglais, ce qu'elle adore faire lui donne la sensation de ne pas s'adresser aux mêmes parties d'elle-même, remarquant que chaque idiome a sa logique. Ici, dans la langue de Cervantes, Clara Isaac dit ne plus vouloir chanter l'amour, « No quiero cantar más de amor ».
En fait, c'est drôle parce que c'est une chanson qui ne parle que de ça, que d'amour et que de liberté, je crois. Et évidemment, je crois que c'est une chanson aussi qui raconte cette espèce de chose où c'est plus fort que soi. Parfois, on en a marre. Moi, parfois, j'ai ressenti ça que dans la musique ou dans le chant, on est tellement connecté à quelque chose de profond en soi, lié au cœur, je crois, que parfois, on n'a pas envie d'être à cette hauteur-là que demande la musique. Et du coup, je crois que c'est une chanson qui commence comme ça et pour finir par dire qu'en fait, finalement, je ne peux faire que ça, que de chanter et et essayer d'être le plus connecté possible au cœur.
Milagro de la madrugada, de tu cuerpo callado, salen barcos y nieblas, salen mundos enteros. Quédate, libertad.
Liberté de peut-être une liberté du corps aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles, chante-t-elle dans Le Monde s'est dédoublé. Où est la réalité dans la musique, Clara?
Ah, c'est... Pour moi, il n'y a pas plus réel que la musique. Je crois que si je devais mettre le curseur de la réalité quelque part, qui est toujours un peu flou pour moi, mais je crois que je le mettrais du côté de la musique. Je crois que c'est là où je sens qu'il y a quelque chose de vrai, de tangible et de partagé qui se passe de manière un peu toujours exceptionnelle.
Laisse-moi m'endormir un instant dans tes bras. Oh, dis-moi que le monde marche très bien sans moi. Que je peux m'assoupir, être nu au creux de toi. J'ai déposé mes armes sous la terre, les ai couverts de pierre.
Merci beaucoup, muchas gracias, thank you very much.
Merci.
Enseveli mon cheval sous la mer et rasé sa crinière.
Soldat, Clara Isaac qui sera en concert les 4 novembre et 5 décembre à la Boule Noire à Paris. Merci beaucoup Alain. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec une autre chanteuse, Souad Massi, pour son nouvel album Oumnia qui sort après-demain chez Naïf. Et vous m'en direz des nouvelles.
J'ai posé mes armes sous la terre, les ai couverts de pierre. Enseveli mon cheval sous la mer et rasé. baiser sa